Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Votre quart d'heure américain.
Bonjour à tous, vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue, je suis Antoine Boyer, ravi de vous retrouver. Au programme cette semaine, diplomatie et coronavirus, la colère de Donald Trump contre la Chine et la guerre des mots entre Washington et Pékin. Il n'y a pas que Donald Trump qui en veut à la Chine. Plus de 15 000 Américains ont rejoint une plainte collective contre Pékin et l'accusent d'avoir échoué à contenir la pandémie de coronavirus et d'en avoir dissimulé la gravité. C'est le cas de Lorraine que j'ai pu joindre. Elle habite tout près de New York. Écoutez bien son histoire.
My family and I attended a wedding on March 7th. It was a family wedding.
Avec mes proches, nous avons été à un mariage familial le 7 mars. Quelques jours plus tard, certains membres de ma famille dans le Connecticut sont tombés malades. Ma mère, qui vit dans l'État de New York, est tombée malade en 5 jours. On n'imaginait pas que ça pouvait être le Covid. On ne pensait pas qu'il pouvait nous toucher. En une dizaine de jours, ma tante a été hospitalisée avec une double pneumonie et le Covid. Mon père aussi. Le beau-père de mon cousin s'est effondré et a aussi été hospitalisé avec le Covid. Et 12 membres de notre famille étaient tous positifs, et moi aussi, avec de légers symptômes qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation.
Le 25
mars, ma tante est décédée après avoir été maintenue sous respirateur pendant environ une semaine. Et 52 heures plus tard, mon père est mort après avoir, lui, été maintenu environ 5 jours sous respiration artificielle. Je tiens pour principal responsable le Parti communiste chinois. Je sais que toute cette histoire est très politisée. Certains accusent Donald Trump, d'autres les démocrates. D'après les informations qui circulent, et vous savez, ces temps-ci, on ne sait pas trop ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. D'après les informations, la Chine aurait pu nous dire plus tôt ce qui se passait exactement, aurait pu laisser entrer ceux qui devaient mener des recherches, etc. M'associer à cette plainte collective, c'était d'abord pour moi quelque chose de symbolique. Je me disais, ok, je dois faire quelque chose car je me sens démunie. Mon père nous a quittés, ma tante aussi. Partout dans le monde, des gens meurent. Je sais que ces plaintes collectives aboutissent difficilement et avec le Parti communiste chinois, ça va être encore plus dur de prouver quelque chose. Ça n'a jamais été une question d'argent. J'espère obtenir justice.
Même si cette plainte n'a quasiment aucune chance d'aboutir, eh bien elle s'inscrit très certainement dans un sentiment de colère généralisée des Américains contre l'empire du milieu. D'ailleurs, une enquête du Pew Research Center révélait qu'en mars, 66% des Américains avaient une mauvaise opinion de la Chine et Donald Trump est le premier d'entre eux.
But I'm a little upset with China, I'll be honest with you.
Could have been stopped in China before it started.
Mais sur la gestion de crise par Pékin, le président américain avait, dans un premier temps, couvert la Chine de louanges. Écoutez par exemple ce qu'il disait de ses relations avec Pékin, c'était le 29 février dernier.
Je pense que notre relation avec la Chine est très bonne. Nous venons tout juste de signer un gros accord commercial et nous commençons déjà à en négocier un autre très important. Nous sommes en étroite relation. Concernant le virus, ils nous parlent, on leur parle. Notre relation avec la Chine est très bonne, elle est même peut-être encore meilleure avec ce qui s'est passé. Vous savez, d'une certaine manière, ça peut unir le monde.
J'ai demandé à mon collègue Francesco Fontemaggi de nous éclairer sur l'attitude de Donald Trump à l'égard de la Chine. Il est le correspondant de l'AFP au département d'État à Washington. Francesco suit de près la politique étrangère américaine.
Donald Trump, on sait qu'il a focalisé son bras de fer avec la Chine depuis la campagne électorale et ensuite, une fois qu'il a été élu président, sur la question commerciale. Alors, il a critiqué la Chine sur beaucoup d'autres choses, mais en réalité, on sent bien qu'il s'en moque un peu. Lui, ce qu'il a promis à ses électeurs, au Midwest, aux agriculteurs, c'est de mettre fin à la prédominance chinoise sur la question du commerce, que les États-Unis arrêtent de se faire, en gros, arnaquer par la Chine sur la propriété intellectuelle et mille autres choses. Donc voilà, lui... Ce qui l'intéresse, c'est la guerre commerciale. Il laisse le reste de son administration faire pression sur les choses beaucoup plus classiques, l'armement, la militarisation de la mer de Chine du Sud, les questions des droits de l'homme, etc.
Le président des États-Unis a vanté, à coups de tweets flatteurs, sa bonne entente avec son homologue chinois Xi Jinping. Mais en coulisses, la mélodie jouée par son administration et le secrétaire d'État Mike Pompeo à la manœuvre était bien différente.
Lorsqu'il a interrogé sur les véritables adversaire des États-Unis, Mike Pompeo, bien avant la pandémie et bien avant les tensions actuelles, alors que l'on aurait pu croire qu'il aurait dit la Russie, l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, a dit « tout ça, ce sont des ennemis régionaux, tout ça, ce sont des rivaux. Notre adversaire à long terme, c'est la Chine. Notre adversaire stratégique sur le long terme, c'est la Chine. » Quand la pandémie a commencé, si Trump s'est montré plutôt bienveillant vis-à-vis de son homologue Xi, ça n'a pas été le cas de Mike Pompeo. C'est lui vraiment qui, dès le début, a porté ce nouveau front, c'est-à-dire accuser la Chine d'avoir manqué de transparence et de rapidité pour informer le monde de l'ampleur, de la gravité du virus. C'est Mike Pompeo qui a le premier commencé à parler de virus de Wuhan, virus chinois. Trump l'a repris plus tard, mais assez rapidement.
Cette terminologie a non seulement fâché les autorités chinoises, mais aussi dérangé aux États-Unis une partie de l'opinion.
Pourquoi l'appelez-vous le virus chinois? On voit qu'il y a des dizaines d'incidents ici à l'encontre d'Américains d'origine chinoise. Votre propre ministre de la Santé dit ne pas l'utiliser. Il affirme que l'origine ne cause pas le virus. Pourquoi continuez-vous à l'utiliser? Beaucoup disent que c'est raciste.
C'est pas raciste du tout, non, pas du tout. Je l'utilise car ça vient de Chine, ça provient de Chine et je vais être factuel.
Le terme controversé a été évincé du vocabulaire des responsables américains et la guerre des mots entre la Chine et les États-Unis porte désormais sur l'origine du virus. D'un côté, Pékin a avancé sans preuve que l'armée américaine aurait apporté le virus à Wuhan lors des Jeux Olympiques militaires à l'automne 2019. De l'autre, l'administration Trump soupçonne ouvertement les autorités chinoises d'avoir caché qu'un accident dans un laboratoire de virologie de la ville aurait été à l'origine de la pandémie. Mais les Américains en ont-ils la preuve ?
Mike Pompeo a d'abord fait état de soupçons. Il a dit qu'il n'avait pas de preuves. À peu près au même moment, Donald Trump disait qu'il avait des preuves. Donc dans la foulée, Mike Pompeo a dit « nous avons des preuves très très importantes pour dire cela ». Mais lorsqu'il est finalement interrogé sur le fait que d'autres membres de l'administration du renseignement américain disent que ce lien entre le laboratoire de Wuhan et le virus n'est pas établi, lui-même dit « on a vu beaucoup de preuves, mais on n'a pas de certitude. Il nous manque encore des réponses à cette question. » Et encore très dernièrement, il a dit « on ne sait pas d'où vient le virus ». Donc voilà, c'est plus un soupçon et une accusation non étayée, en tout cas publiquement à ce jour, qu'une accusation fondée sur des preuves portées à la connaissance du public.
Nous n'avons pas de certitude, il y a des preuves significatives que cela vient du laboratoire. Ces deux déclarations peuvent être vraies, je les ai prononcées, les hauts responsables de l'administration aussi, elles sont toutes vraies.
Et la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères répond au chef de la diplomatie américaine.
Monsieur Pompeo s'est exprimé à plusieurs reprises, mais il ne peut présenter de preuves. Pourquoi ? Parce qu'il n'en a aucune. Je pense donc que cette affaire devrait être confiée aux scientifiques, au personnel de santé, plutôt qu'à des politiciens qui mentent au nom de leurs besoins de politique intérieure.
Dernière menace en date du président américain, suspendre toute relation avec la Chine. Donald Trump ne veut plus parler à Xi Jinping. Il martèle que l'incompétence de Pékin a provoqué ce qu'il appelle une tuerie de masse mondiale. Alors est-on passé dans une logique de guerre froide entre les deux premières puissances ?
Le terme de guerre froide est quelque chose qui, dans la bouche de certains analystes observateurs, existait déjà avant, justement, parce que c'est un face-à-face non armé, mais tout de même militarisé par endroits et de plus en plus, puisque la Chine est une puissance militaire. D'autres la contestaient parce qu'ils pensaient qu'on n'était pas du tout dans cette optique-là, ou en tout cas que ça n'atteignait pas le niveau d'une guerre froide. Aujourd'hui, ça refait surface. C'est une analyse aussi qui progresse chez les observateurs, puisque, comme tu disais, voilà, c'est l'ennemi désigné.
Merci beaucoup, Francesco.
Merci, Antoine.
Allons prendre la température du côté de Pékin. Patrick Barr, bonjour.
Bonjour.
Tu es journaliste, chef du bureau de l'AFP à Pékin, en Chine. Qu'est-ce qu'ils répondent, les Chinois, aux différentes attaques de l'administration américaine quand d'abord Donald Trump et Mike Pompeo parle de virus chinois, virus de Wuhan.
Il y a eu une réaction furieuse au début. Donc la Chine a beaucoup insisté auprès de l'OMS pour qu'on trouve un terme plus neutre. Donc c'est pour ça que maintenant on parle du Covid-19. Et évidemment pour les Chinois, ce qui est très important, c'était que surtout le mot chinois ou le mot Wuhan ou Hubei ou n'importe quoi n'apparaisse surtout pas dans le nom de cette maladie qui aurait pu être stigmatisant vis-à-vis d'eux. Ce qui est assez amusant de constater, c'est que les médias chinois et même les sources officielles, ça ne les dérange pas du tout d'utiliser des termes liés à l'origine géographique d'une maladie quand ça ne concerne pas la Chine. Donc par exemple, Ebola, qui est le nom d'une localité en Afrique, c'est un terme qu'ils utilisent. On parle aussi beaucoup depuis 2 ans ici en Chine d'une épidémie de peste porcine africaine. Personne ne dit que c'est du racisme.
Et le coronavirus a apporté son lot de buzz avec des vidéos en tout genre sur l'origine du virus. L'agence de presse étatique Chine Nouvelle a appelé la sienne « Il était une fois un virus », une vidéo on ne peut plus surprenante visionnée plus de 2 millions de fois sur YouTube. Patrick Barr l'a aussi regardée et analyse.
C'est des personnages un peu de Lego. Il y en a un qui représente la Chine sur la gauche et puis un à droite qui représente les États-Unis sous la forme d'une statue de la liberté. Et donc ça refait un petit peu toute l'histoire du virus.
December. Strange pneumonia cases reported. January. We discovered a new virus.
So what?
It's dangerous.
It's only a flu.
Avec la Chine qui donne l'alerte dès début janvier, qui place Wuhan en quarantaine, etc. Et à chaque fois, les États-Unis qui répondent « mais c'est une petite grippette », etc., etc. C'est une façon pour la propagande chinoise d'essayer de mettre un peu les rieurs de son côté. Ce qui est assez amusant, c'est que, ou inquiétant plutôt si on veut, c'est que, par exemple, dans le dessin animé, quand le personnage qui représente la Chine dit « nous mettons toute une ville de 11 millions d'habitants en quarantaine », à ce moment-là, vous voyez les statues de la liberté au nom des États-Unis qui répond « atteinte aux droits de l'homme ».
Stay at home.
It's violating human rights.
On peut voir que, pour la propagande chinoise, se moquer de la notion de droit de l'homme telle que la conçoivent les Occidentaux, c'est quelque chose aujourd'hui de tout à fait normal. Ce virus, d'une certaine façon, c'est pain béni pour le régime communiste parce que c'est un peu une façon de dire « regardez, nous, notre système, il fonctionne ». Dans les gens que je croise, que je rencontre dans la rue, les gens ont visiblement oublié que l'épidémie était partie de chez eux et très souvent les gens me disent « ah ben, t'es bien content d'être ici, hein, c'est bien la Chine, hein, c'est mieux que chez toi en ce moment ».
Comment réagissent les autorités chinoises quand Donald Trump menace de couper les ponts ? On ne sait pas si c'est un coup de bluff, mais il l'a quand même menacé très clairement récemment.
Tous les jours, nous on va à la conférence de presse du ministère des Affaires étrangères et sur cette question très très précise, quand Trump a dit « moi je peux très bien me passer de la Chine et on économiserait 500 milliards de dollars par an », le porte-parole du ministère n'a carrément pas répondu, ou il a répondu à côté. Et ils font attention de ne pas trop jeter de l'huile sur le feu, et aussi de se dire que Trump dit beaucoup de choses et on n'est pas forcément obligé de répondre à chaque fois.
Patrick, comment qualifier la relation entre les États-Unis et la Chine en ce moment du point de vue chinois ?
La relation est très mauvaise. La plupart des analystes, en général, disent qu'elle est tombée au plus bas depuis au moins la répression de Tiananmen en 89 et peut-être même encore avant, depuis en fait la grande visite de Nixon en 72 en Chine, qui a été le début de la relation bilatérale. Du point de vue chinois, je pense qu'on s'en rend compte tout en gardant une certaine prudence. Je n'ai pas l'impression que Pékin veuille couper les ponts. Les Chinois savent qu'ils ont encore besoin des États-Unis. Et même si ils se sentent menacés, attaqués, pour l'instant, ils essayent de faire le gros dos, j'imagine, en espérant que l'orage passe après le mois de novembre.
Avant de tristement devenir l'année du coronavirus, 2020 était surtout l'année de la campagne présidentielle américaine. En novembre, Donald Trump remettra en jeu son siège à la Maison-Blanche face au démocrate Joe Biden. Et évidemment, sa rhétorique face à la Chine, c'est aussi un thème de campagne.
During the coronavirus pandemic, Joe Biden criticized President Trump's China travel ban.
Hysterical xenophobia.
He was dead wrong.
I'm Donald J. Trump and I approve this message.
Célia Belin est chercheuse à la Brookings Institution à Washington et auteure du livre « Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump » aux éditions Fayard et la Fondation Jean Jaurès.
Alors Donald Trump en ce moment est en train de chercher les angles d'attaque qui vont fonctionner avec Joe Biden. Il a un moment inespéré où il peut allier à la fois le sentiment anti-chinois qui gronde et son intérêt politique. Ce serait de dire que Biden est mou, faible, n'arrivera pas à faire face à la Chine, vendrait les États-Unis à la Chine, laisserait la Chine prendre le pas. Et ça fait résonance avec le fait que l'administration Obama, pendant laquelle Joe Biden était vice-président, est un peu le dernier moment où il y a eu encore des tentatives de coopération entre l'administration américaine et la Chine. Sur le commerce un peu, mais pas tellement, mais beaucoup sur le climat. Il y avait un grand partenariat stratégique où il y avait des discussions un peu difficiles sur les affaires numériques, sur des grands sujets où il y avait à la fois une prise de conscience de la compétition avec la Chine, mais il y avait encore un peu une volonté de coopérer. Et donc probablement, il va essayer d'aller chercher cette image-là, que Joe Biden aurait eu cette faiblesse-là, et essayer de la coller sur le dos du candidat.
En première ligne pour sauver des vies et victimes de racisme, le Washington Post a recueilli des témoignages de personnels soignants comme celui d'Amy Zhang. Cette médecin d'origine chinoise était à un pâté de maison de son hôpital, vêtue d'une blouse, quand un homme lui a hurlé « Fuck you China », je vous laisse traduire, pour nous avoir transmis la variole. C'est la fin de cet épisode de 2020, le podcast Made in America de l'AFP. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer entre Paris et Washington, comme Laura Akoun, Salima Belhadj et Lucie Aubourg. Et vous, prenez soin de vous, écrivez-nous si vous souhaitez qu'on approfondisse un sujet à antoine.boyer@afp.com. Je vous dis à vendredi prochain, américainement vôtre.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.